J'ai pompeusement intitulé mon intervention entre Alpes et Méditerranée, servir l'éducation, servir la population. Quand je dis pompeusement, c'est que la puissance invitante m'a dit qu'Innocient, ce serait bien d'avoir un titre accrocheur. Je me suis empressé d'imaginer quelque chose qui puisse avoir à la fois un peu de sens par rapport à mon propos et qui puisse servir l'attente formulée. Mais je vais insister plus particulièrement sur le lien que vous connaissez, sans doute, pour certains d'expérience, pour d'autres par écho ou par information, le lien entre l'éducation nationale ou les services de l'éducation nationale et d'autre part les archives départementales à un niveau territorial. Je vais aborder mon propos sous trois angles qui n'ont rien de très originaux et qui correspondent, je crois, là pour le coup à la commande du président et qui est d'une part le constat de départ, ensuite où nous en sommes aujourd'hui à la fois du partenariat et des actions menées et ce qui se dessine pour demain. À l'égal de mon prédécesseur ou de Sarreguemines, il faut revenir au territoire lui-même. J'ai pris ici une carte géologique des Alpes-Maritimes de 1906. Elle a la vertu de rappeler à la fois l'étendue du territoire, le caractère d'une part original du littoral au sud et d'autre part de la montagne à travers le secteur des Alpes à l'est. Pour rappeler aussi qu'à l'égal du secteur frontalier dans lequel s'inscrit Sarreguemines, les Alpes-Maritimes connaissent deux frontières, d'une part celle avec l'Italie, bien connue, d'autre part celle plus feutrée avec Monaco. Il n'est pas complètement indifférent, même si on le verra, l'action éducative et culturelle avec Monaco est réduite à sa plus simple expression, il n'est pas indifférent de savoir que pour engager une politique d'action éducative et culturelle, partir du terreau que sont les sources qui sont conservées aux archives départementales oblige à les resituer très rapidement dans leur contexte. Avant 1860, le département des Alpes-Maritimes n'existe pas. Nous avons d'une part un territoire, une partie du territoire qui est sarde, certains diront italienne, et une autre partie, l'arrondissement de Grasse, qui est française. À partir de 1860, nous avons un territoire réuni à travers un département qui va s'accroître un an plus tard, en 1861, d'une partie du territoire qui est moins connue, même si elle est réputée au plan international, mais son rattachement à la France est moins connu, puisqu'il s'agit d'un achat, en 1861, de Menton et de Roquebrune, qui ont été achetés à Monaco, ce qui rend un peu plus spécifique le territoire et son histoire. Et puis, dernier mouvement de la valse, tout au moins jusqu'à cette heure, le traité de paix du 10 février 1947, qui rattache Tende et la Brigue à la France et qui accroît dans le secteur nord-est le département des Alpes-Maritimes. Ce qui fait qu'on a des fonds à disposition des chercheurs, à disposition des enseignants, à disposition des élèves, des fonds qui sont à la fois riches, assurément, complexes dans la mesure où ce qui relève d'une intention bien ancrée aujourd'hui de développement des connaissances civiques en particulier, oblige à avoir une approche des institutions qui est particulièrement complexe sur ce territoire-là. C'est par ailleurs, par sa position, en particulier frontalière, un territoire de marche qui a eu comme conséquence, et qui a toujours comme conséquence, un brassage des populations, à la fois dans leur proximité, notamment avec l'Italie et le bassin méditerranéen, et puis on l'oublie peut-être un petit peu, historiquement, parce qu'il y a eu, notamment dans le secteur tertiaire, avec l'hôtellerie, la restauration, des personnes originaires d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, et donc une population de nationalités, de cultures et de pratiques très différentes qui vivent aujourd'hui sur le territoire. Les Alpes-Maritimes, c'est à la fois le cliché que je vous offre et que tout le monde connaît, une vue du Cap d'Antibes à gauche. On se dit que c'est plaisant, c'est facile et c'est heureux de vivre dans les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas complètement faux, c'est un petit peu à nuancer. Donc c'est une géomorphologie qui est belle, assurément, mais contraignante. Sur la photographie de droite, vous avez la vallée de la Tinée. Par rapport à la carte que vous avez eue précédemment, on est bien sûr d'une part à gauche au sud, et d'autre part, on est plein nord-est de l'autre côté. Gardons simplement à l'esprit une échelle. Pour se rendre de Nice, qui est comme vous le voyez sur la carte précédente, centrale au sud de du département. Il faut en moyenne aujourd'hui 2 heures pour gagner le nord du département, quand les conditions climatiques le permettent, d'une part, et quand vous avez un véhicule qui vous permet également de circuler sur certaines routes qui ne sont pas forcément accessibles à tout type de véhicule. Si vous voulez vous déplacer depuis Nice ou gagner Nice depuis des secteurs beaucoup plus éloignés comme Tende, par exemple, où là on est quasiment, on n'est pas quasiment, on est à la frontière nord-est, il faudra compter 2h30, quelquefois 3h. Ces éléments sont à tenir en compte pour imaginer d'organiser et de structurer une politique d'ampleur départementale à vocation éducative et culturelle. Je voudrais ajouter d'autres critères qui me semblent importants également pour analyser le territoire, et je me suis contenté paresseusement de reprendre les études de l'INSEE qui nous permettent d'approcher la population, cette fois-ci, où, vous le verrez, rien d'original du tout, sinon la confirmation d'éléments qui sont d'une part la densité de population en 2009, je ne ferai pas un commentaire long de cette carte-ci, on voit très distinctement que les secteurs sud, littoraux, entre l'axe Antibes-Cannes, plein ouest, le cas central avec Nice et le bassin niçois, et d'autre part à l'est, Menton et le Mentonnais, et vous avez là l'essentiel de la population des Alpes-Maritimes. Ce qui n'est pas complètement indifférent non plus, c'est de savoir que la population des Alpes-Maritimes est devenue millionnaire à partir de 1962 et de l'arrivée des rapatriés essentiellement, qui sont installés sur la côte pour la plupart. Je dis bien pour la plupart parce qu'on ne peut pas vraiment en tirer une loi générale. C'est donc à travers ces courbes-là, à partir de 1962, que l'on voit s'implanter sur une bande d'environ 25-30 km l'essentiel de la population. Si on veut caricaturer les Alpes-Maritimes aujourd'hui, 1 million d'habitants sur une bande de 25 à 30 km, 100 000 habitants sur le reste du territoire. C'est ce qu'on appelle le moyen pays et le pays haut. Encore une fois, ces éléments peuvent sembler un peu fastidieux, mais pour pouvoir se projeter dans une politique, il convient d'en tenir compte et d'estimer quelle stratégie on peut proposer ensuite aux élus pour pouvoir la permettre et la développer. Très rapidement, 2 dernières cartes, simplement pour vous indiquer que la part des jeunes 0 et 14 ans en 2009, comme vous le voyez sur cette carte, est situé non pas spécifiquement à proximité du littoral, mais dans le moyen pays. C'est le lieu où on peut s'établir à des prix raisonnables. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes ménages y vivent. Ce n'est pas indifférent. Le pays haut, comme vous le voyez, est complètement déserté. Et c'est tout l'inverse. Pour les 75 ans ou plus, ils se trouvent dans le pays haut. Comment faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances pour des collèges, des classes primaires, des lycées qui se trouvent dans le pays haut, alors que de manière statistique, il est évident qu'il n'y a qu'une population très faible. Voilà un des enjeux qui se présente aux archives départementales. Le constat de départ, c'est, pour ce qui relève de l'organisation même de la politique d'éducation culturelle et éducative, c'est la création par l'un de mes prédécesseurs, dont je veux saluer ici, non pas la mémoire, elle est toujours vivante, mais tout au moins l'action, il s'agit de Rosine Clayet-Michaud. En 1978, elle prend ses fonctions. En l'espace de 3 ans, elle convainc, 1981, elle convainc la collectivité Conseil Général à l'époque de favoriser et de manière délibérée de développer une politique d'action éducative et culturelle aux archives départementales. Ceci coïncide aussi, car Rosine Clayet-Michaud était très active, avec la création d'un nouveau bâtiment, des archives départementales, lequel s'avère être complètement inadapté à l'accueil de public scolaire. De là la nécessité d'envisager autre chose que de manière un peu passive, accueillir des classes pour pouvoir leur proposer une offre éducative et culturelle. Voici le bâtiment des archives départementales des Alpes-Maritimes. Pour les aficionados, vous vous trouvez là au nord de l'aéroport de Nice, dans la plaine du Var. C'est pour l'essentiel et la partie la plus spectaculaire, 2 gros cubes noirs que vous voyez devant vous, et puis un transept au bout avec le magnifique logo de la collectivité sur le côté. Devant vous, un bâtiment un peu plat, qui est le quadrilatère en blanc en bas, qui est le quadrilatère à la fois de la salle de lecture, l'accueil du public, et d'autre part, des services des archives départementales. Vous êtes là dans un secteur qui s'appelle le CADAM, Centre administratif des Alpes-Maritimes, 4 hectares, entièrement dédié, avec 3000 fonctionnaires qui s'y rendent tous les jours, qui est entièrement dédié aux services centraux de l'État déconcentré, et d'autre part aux services centraux de la collectivité et au milieu de cette chose qui s'appelle les archives départementales. Ces hectares-là sont clôturés, vidéosurveillés, d'une accessibilité assez douteuse, en réalité, ce qui pose problème pour pouvoir accueillir, par exemple, sous la forme de visites par bus, des classes aux archives départementales. Ça, Rosine Clié-Michou a su l'analyser très tôt, au point de se dire que, dans le bâtiment, au fond, on ferait ce que l'on pourrait en termes d'accueil et d'offres, mais qu'il fallait envisager une politique éducative qui se fasse hors les murs. 1984-1991, création d'une section intitulée, c'est l'appellation locale des organigrammes de la collectivité conseil départemental aujourd'hui, c'est un département si on veut l'appeler sous d'autres formes, avec 5 agents, un catégorie A, un catégorie B et 3 catégories C, associés à 2 professeurs relais de l'éducation nationale, dans un premier temps de manière très libérale, disposant de 4 heures de mise à disposition, ou de décharge, selon la période de laquelle on parle, et d'autre part, transmué aujourd'hui en 2 heures d'IMP, les indemnités pour mission particulière. En réalité, vous le savez, ou vous l'imaginez, les enseignants ne font pas 2 heures d'IMP, ils consacrent beaucoup plus de temps à des activités sur lesquelles je vais revenir. Dans le même temps, acquisition de 50 panneaux d'exposition en aluminium et en plexiglas destinés à permettre la circulation d'expositions sur le territoire des Alpes-Maritimes. Une fourgonnette pour leur transport et, dans le même temps, même si cette durée de vie a été assez éphémère, un peu moins de 10 ans, un archivobus permettant de décliner en modèle réduit, une espèce de mini-lien cette fois-ci, pour des mini-expositions itinérantes et des mini-ateliers. Tous ces éléments se construisant de manière parallèle les uns aux autres. Quel est l'état aujourd'hui? Je ne vais pas célébrer la collectivité dans laquelle je travaille, mais je constate simplement que les moyens mis à disposition restent élevés, ce qui ne veut pas dire que l'avenir est à nous, et je dirais presque aujourd'hui tout le contraire. En tout état de cause, à cette heure, en termes de ressources humaines, on continue de travailler avec les 5 agents que j'ai indiqués de la collectivité, 2 professeurs rémunérés en indemnité pour mission particulière. Les crédits restent élevés. Si vous m'interrogiez, ça coûte combien l'action éducative et culturelle aux archives départementales des Alpes-Maritimes, je serais bien embarrassé pour vous répondre. Si je fais une cote mal taillée et sans tenir compte des charges du personnel, donc uniquement les moyens mis à disposition, on oscille entre 40 et 50 000 euros par an, toutes opérations, tout support ou tout travaux confondus. Ceci porte sur un total aujourd'hui de 27 expositions qui couvrent l'ensemble du territoire et de son histoire, ainsi que de ses habitants, depuis la préhistoire jusqu'aux années 1970, ainsi que des thématiques. Risques naturels, du mélèze au palmier, l'eau douce et la mer, par exemple. Il s'agit là, et à la demande des enseignants, d'ouvrir des thématiques autour de l'aménagement du territoire, d'une part, ce qui n'est pas différent d'un territoire qui n'est plus, rassurez-vous aujourd'hui, mais qui a été largement bétonné, et d'autre part, d'aborder plus spécifiquement dans un territoire sensible, je veux parler en particulier du Mercantour et de son parc naturel national, la question du développement durable et de l'environnement. D'autre part, ces crédits nous servent également à développer et à mettre en ligne des expositions virtuelles. Avec chacune des expositions virtuelles est accompagnée d'un dossier pédagogique co-construit entre les enseignants relais et les archives départementales. D'autre part, des questionnaires pédagogiques. Chacune des expositions est accompagnée, j'insiste là-dessus, du dossier et d'autre part du questionnaire. Et enfin, des ateliers pédagogiques qui ont lieu sur place. Dans un premier temps, c'était essentiellement autour de thématiques comme les blasons, l'écriture et son histoire, et qui étaient très demandées par les écoles primaires. Aujourd'hui, on voit cette demande se développer au niveau des classes de 6e et de 5e, qui est une nouveauté plutôt stimulante pour nous. Sachant que, c'est une des limites à la fois de la pratique et de la politique, eh bien, il nous est demandé, comme dans beaucoup de collectivités aujourd'hui, de revenir à un périmètre qui soit à la fois raisonnable économiquement et cohérent avec les compétences de la collectivité. Chacun sait que le conseil départemental n'est pas compétent pour les écoles primaires. Il s'agit maintenant de justifier et d'argumenter pour dire que la politique qui a été menée et qui était plénière sur tous les niveaux scolaires jusqu'à présent doit être maintenue. Voilà la raison pour laquelle demain, qui a en partie commencé avec notamment les demandes d'argumentation autour des politiques développées par les archives départementales comme des autres services de la collectivité, des réflexions sur les priorités d'une collectivité dans un contexte de diminution des recettes. Ce n'est pas original, nous sommes tous concernés en la matière. Il s'agit maintenant, non pas parce qu'on nous dit, on nous rappelle que l'argent est rare, ce qui n'a jamais été faux, nous ne le découvrons pas, en tout cas pour ma part, je ne le découvre pas aujourd'hui. Simplement, on est plus exigeant, beaucoup plus exigeant, dans l'argumentaire ou les argumentations apportées autour d'une politique que l'on souhaite pouvoir développer. Et d'autre part, un autre enjeu pour nous dans les Alpes-Maritimes est de favoriser une action culturelle et éducative plutôt unique, je vais revenir un instant sur le panneau précédent, déclinée en support à la fois pour élèves et support pour adultes. Précédemment, vous avez vu un voile de roll-up. Aujourd'hui, nos expositions sont légères, un carter, un roll-up. Vous montez votre potence et vous montez votre panneau. Voici une exposition qui est tout à fait liée aux commémorations du bicentenaire du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan. Évidemment, la collectivité se sent particulièrement flattée parce que Napoléon a choisi Golfe-Juan pour débarquer. C'est donc chez nous, il y a donc une légitimité qui n'est pas besoin d'argumenter très longtemps pour justifier la raison pour laquelle on va travailler sur cette thématique-là. Et d'autre part, on s'est rendu compte en travaillant sur le sujet avec les enseignants, en en parlant aussi en réunion avec des enseignants volontaires qui ne sont pas les enseignants relais, qu'il y avait matière en réalité à partir sur une exposition unique qui devait être déclinée à travers son dossier pédagogique et d'autre part ses questionnaires selon les niveaux des classes et leurs spécificités, mais avec un principe et un socle qui étaient communs entre adultes et élèves. Je termine mon propos en rappelant que l'action éducative et culturelle relève d'un choix politique de la collectivité, un choix politique. Donc, il n'y a pas. Les archives départementales, de manière globale, sont une compétence obligatoire de la collectivité. Il n'y a pas de dépense obligatoire. Donc, on peut se satisfaire de l'euro symbolique pour pouvoir éventuellement mener une politique. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas, vous l'avez entendu. S'il est à peu près entre. À peu près autour de 40 000 euros par an pour pouvoir y travailler. Et comme je l'indiquais, donc une dépense facultative qu'il va falloir plus encore aujourd'hui argumenter et défendre. Néanmoins, et dans le même temps, je n'apprends rien à personne, c'est aussi une politique d'une très grande visibilité pour les élus. Donc s'en priver, c'est aussi en grande partie se tirer une balle dans le pied. Et dans ces conditions, y réfléchir à deux fois avant de dire, dans les économies que nous allons réaliser, car nous allons en réaliser, eh bien, nous choisissons de diminuer sensiblement, voire de supprimer des activités, par exemple, autour des écoles primaires. L'enjeu pour les Alpes-Maritimes, je le maintiens, il n'est pas d'ordre administratif d'après les compétences des collectivités, mais il est dual entre le nord déserté, appauvri, et le sud plein, et en règle générale, assez riche. Pour nous, il s'agit d'abord de consolider l'offre physique d'exposition. Ça peut sembler paradoxal dans des périodes où on est incité les uns les autres, d'ailleurs on l'a vu à travers ma maladresse pour l'utilisation des nouvelles technologies, à mettre en ligne et à permettre une utilisation à distance. Non, enfin, oui peut-être, mais sans exclusive. Et pour ma part, je tiens beaucoup, c'est ce que je défends auprès des élus, à ce que la présence physique des archives départementales, des enseignants, soit une réalité et pas un vœu pieux en disant la visioconférence commencera à telle heure et en avant. La musique, il y en a pour 30 minutes avec l'enseignant, 30 minutes avec les élèves. Ça, je n'y crois pas. deux enjeux forts pour l'instant. D'une part, renouveler la forme et peut-être le fond, parce que certaines expositions sont datées, vous le voyez sur celle de droite en particulier, sur les risques naturels. Elle est vieillotte, ça ne fait absolument aucun doute pour les uns et pour les autres. Nous devons travailler à la renouveler sur la forme. On s'empare également de la perspective pour la renouveler sur le fond. Deuxième élément, le développement de relations étroites. Ce n'est rien d'original, mais il va falloir les consolider plus encore aujourd'hui pour justifier nos politiques. Développement des relations étroites avec le rectorat, avec la DSDEN, direction des services départementaux de l'éducation nationale, et d'autre part, la direction des collèges du conseil départemental, avec une opération qui a eu lieu dès la fin de l'année dernière et qui s'est intitulée « De la lumière à l'ombre ». Une étude, la lumière à l'ombre, donc on part du sud des Alpes-Maritimes pour arriver à la déportation. Donc on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Étude des archives de la Seconde Guerre mondiale en lien avec le voyage des collégiens à Auschwitz. Donc nous avons monté avec le rectorat, avec la direction des collèges du conseil départemental, une opération d'ampleur globale, absolument pas liée à l'unicité à la fois d'une exposition et d'autre part d'un dossier pédagogique. Maintenir l'offre en ligne, oui, même si je vous invite à le découvrir vous-même sur le site des archives départementales, des expositions virtuelles, des dossiers pédagogiques, des questionnaires en ligne. Et pour terminer, faire porter aujourd'hui pour nous l'effort sur le contenu. Comme vous le voyez dans la partie grasse en bas, eh bien, aujourd'hui nous sommes prestataires de services en convoyant des expositions, ce qui justifie que sur les 5 emplois, 3 personnes circulent tous les jours de la semaine dans les Alpes-Maritimes, pour apporter sur site, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, les expositions, puis les démonter, les ramener pour servir au déplacement à venir. Et là, il sera très difficile de pouvoir maintenir ce niveau de service-là dans les mois qui viennent, je ne parle même pas d'années. Et dans ces conditions, justifier que nous avons, nous, à investir plutôt le champ intellectuel de la conception à la fois de la politique, des expositions, des dossiers, et nous concentrer sur ce volet-là. D'une part, comme je l'ai indiqué, gommer la césure publique adulte scolaire autant que faire se peut. D'autre part, j'accélère, diversifier l'offre en fonction des programmes de l'éducation nationale. Le renouveler, cet effort-là, pour être plus disponible, notamment dans les zones de montagne. Je le dis, je le répète, et c'est aujourd'hui un enjeu particulièrement tendu, tout simplement parce qu'on y a aussi des pertes de services publics et que ce sont des territoires qui se sentent particulièrement déshérités et oubliés. Et je termine, Monsieur le Président. Pour terminer par des formations d'enseignants dans lesquelles nous allons nous investir un peu plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. En 2015, par exemple, le programme Culture à portée de main, qui nous a permis de réunir une grande partie des enseignants de collèges et de lycées dans le département des Alpes-Maritimes pour une meilleure connaissance à la fois de nos missions aux archives mentales et de l'offre qui est dispensée. Et d'autre part, les commémorations, comme tout un chacun, autour de la Grande Guerre, avec la mission du centenaire, la préfecture et l'Office national des anciens combattants, en ajoutant que nous participons également très volontiers aux manifestations de l'Office national des anciens combattants sur le territoire autour des concours liés aux petits artistes de la mémoire en particulier, qui nous permet de resserrer nos liens non seulement avec l'éducation nationale qui est présente et qui participe largement, mais d'autre part avec un établissement public, en l'occurrence l'Office national des anciens combattants. Pour terminer, Monsieur le Président, et ce sera ma conclusion, essayons simplement de notre côté de maintenir un niveau haut d'ambition qui a été celui développé par mes prédécesseurs et qui est aujourd'hui non pas menacé mais remis en question comme dans beaucoup de collectivités. Et essayons d'être suffisamment intelligents, de porter notre réflexion sur ce qui mérite d'être corrigé. Il y a quelques éléments, j'en ai indiqué un. Il y en a d'autres qui méritent d'être consolidés pour être à la fois au service des enseignants, au service des élèves et plus généralement de la population. Je vous remercie.